réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard.
Eh oui, chers auditeurs, réussite éducative, on est là 2 semaines de suite. Je crois qu'en 10 ans, ça n'est jamais arrivé 2 semaines de suite.
Surtout que ça fait pas 10 ans qu'on fait cette émission.
Bon, arrête, toi, je fais croire. Arrête, les gens y croient après et tout. Tu sais que ça doit faire un petit paquet quand même, hein. Parce qu'on était au Buisson Ardent, d'aller au coup du Buisson Ardent, au moins 2-3 ans.
Ah non,
franchement,
ça fait à peu près 5-6 ans, je dirais.
5-6 ans ?
Ouais.
On calculera ça, chers auditeurs. Nous vous dirons qui avait raison. Si on est plus proche des 10 que des 5, on vous dira ça, eh bien, dans 3 semaines. Car oui, chers auditeurs, on a décidé avec David cette année de faire 2 semaines réussite éducative, 2 semaines vie associative, etc., etc. Ce qui fait que la semaine prochaine, vous retrouverez vie associative. La semaine prochaine, tout de suite, je l'annonce, on fera le bilan du Colmar... c'était quoi déjà ? Oui, Nancy, à monocycle. Je rassure tout le monde tout de suite, parce qu'on en a parlé aux antennes il y a 30 secondes avec quelqu'un là, d'important, de la radio. Ça a réussi, ça a marché, etc. C'était douloureux, voilà, c'était difficile, mais ça a marché. Et merci à vous tous pour votre soutien. La cagnotte pour Sœur Optimiste à destination de France Victime 54 est encore ouverte. Et oui, je parle avec les mains à la radio. Et du coup, n'hésitez pas, bien sûr, vous allez sur Allo Asso. Ouais, c'est ça. À vélo avec Chamallow. Et là, vous tombez sur la cagnotte. Et merci beaucoup. Merci pour France Victime 54. Et la semaine prochaine, donc, je recevrai Jean du Rotary Club, le Kiwanis, les Sœurs Optimistes, etc. Et on fera un bilan de ce défi-là. Ainsi que Dominique, le président des motards. Une rose, un espoir. Chardon 54. Et tout ça, on fera le bilan, hein, de tout ce grand défi-là. Et on remerciera vous tous. Et puis toutes les personnes qui ont participé pour la logistique, le soutien, etc., etc. Donc, on fera le bilan et ça permettra, bien sûr, c'est ça que ça sert, hein, de ressouligner donc tous ceux qui luttent contre les violences faites aux femmes, puisque c'était ça l'objectif du défi. On en reparlera donc la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, dans 2 semaines, on recevra la présidente de France Victime 54 dans les studios de RCN. La fête des assos est passée. Mais on vous dira la semaine prochaine si elle s'est bien passée. Voilà, on va pas développer. Oui, David, c'est pourquoi, hein ? C'est parce qu'on enregistre l'émission avant, donc on peut pas le dire.
Bien sûr.
Parce qu'imagine qu'il pleuve ou je sais pas quoi. Ensuite, là maintenant, nous sommes donc mercredi 27. Eh bien, n'hésitez pas à venir à la rencontre de notre association devant le King Jouet toute la journée que je vais animer à Oudemont le 7 et le 8. Action Téléthon. Je serai en animation au... C'est quoi déjà les chevaux là ? L'hippodrome. Merci de ton aide, David. L'hippodrome. Voilà, le truc, les chevaux, ils courent. Voilà, à bras-bois pour le lancement de nos actions AFM Téléthon. On rentre dans la période du Téléthon, la période tout en jaune. On en reparlera, bien entendu. Et tout de suite, réussite éducative, bien sûr. Le grand David Richard, il est là, on l'applaudit. Ouais ! Et Jean-Luc à la technique que l'on salue. Ça va, David ?
Ça va.
Donc un petit tour.
J'étais en train de digérer ton introduction. C'est pour ça que j'ai eu un petit, tu vois, j'étais là mort. Petite sieste là.
Sympa, je l'adore lui. Donc tu voulais aujourd'hui nous parler de...
Moi je vais pas parler en fait aujourd'hui. Yes, comme super. D'habitude, tu sais. Mais comme d'habitude, je dis que je ne vais pas parler. Puis en fait, en vrai, je vais parler plein de fois. Non, aujourd'hui, moi, on va recevoir des gens. Pas des belles personnes, je trouve, du gratin un petit peu.
Enfin, tu vois, du beau monde.
Du beau monde, merci, ouais. C'est ce que je cherchais. On reçoit du beau monde puisqu'on va recevoir. Alors je fais les choses dans le désordre. Non, je vais les faire dans l'ordre. On va recevoir dans un premier temps Emma, qu'on avait déjà entendu l'année dernière, qui était venue nous voir sur une intervention, si je ne dis pas de bêtises. Et puis l'objectif, c'est que cette année, on t'entende beaucoup plus. on avait parlé en particulier des problèmes de harcèlement scolaire l'année dernière. Et puis, comme on est à rebrousse-poil de l'actualité, que maintenant c'est devenu l'actualité, on va parler d'autre chose. Tu es venu nous parler complètement d'autre chose. De quoi tu vas nous parler en un mot, ou deux, ou quelques-uns, mais pas trop. D'un jeu vidéo. Quel genre de jeu ?
Horreur.
Allez, je suis content, j'aime bien. Ensuite, on va également entendre, on l'avait annoncé la semaine dernière, Maëva. De quoi vas-tu nous parler, Maëva ?
Maëva.
L'école des fans, un peu.
Ouais, c'est ça.
Moi, je vais parler de l'éducateur spécialisé.
D'accord.
D'accord, super. Et donc, tu t'appelles Maëva, c'est ça ?
Ouais.
J'aime bien la taquiner. Super. On a perdu David.
Ouais, non, mais ça y est, je suis revenu, ça a été très vite. Voilà, je vais faire le tour. Maintenant, on va aussi recevoir. Ah oui, parce que, alors, parce que quand je conçois les choses, attention, c'est extrêmement pointu. C'est de l'orfèvrerie, hein, on est d'accord.
Oh, bah, je sais, je te connais.
Puisqu'on reçoit Emma qui va nous parler d'un jeu vidéo d'horreur. Et puis, comme c'est bien fait, du coup, on reçoit une autre personne qui est sa maman. Et ça, c'est bien, parce qu'elle va nous parler d'autre chose. On va parler d'une. Enfin, moi, je vais présenter un petit peu un dispositif qui existe sur Max Civil, qui s'appelle le REAP. Je détaillerai après, c'est le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement aux parents, et il y a des actions qui sont organisées. Il y a eu effectivement parmi ces actions une sortie au mois d'août, et donc voilà, comme vous y étiez, on décrira un petit peu ce qui se passe dans une sortie pour arriver à rien de plus original que ce qu'on fait ailleurs, mais bon, on le fait, donc faut quand même en parler. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour.
Oui, mais attention David, tu sais qu'il y a deux ennemis à la radio.
Oh mon Dieu.
Le blanc, d'accord, le silence, comme ça. Et puis, les fous rires. Et là, attention, parce que ta transition, t'as failli me perdre pour toute l'émission. Parce que t'as dit, puisque la transition, puisque nous allons parler d'horreur, nous avons là sa maman. Excuse-moi, mais j'ai trouvé, il y a une sorte de maladresse dans l'enchaînement.
Mais j'ai pas dit puisque nous allons parler d'horreur, j'ai pas dit ça. Je me suis lancé des fleurs, j'ai fait de l'autosatisfaction et après j'ai...
Voilà. Je plaisante.
Comme on va parler d'horreur, je pense qu'il va falloir... Désolé encore une fois, hein, j'insiste un petit peu.
Ouais, tu vois.
Comme on va parler d'horreur, je pense qu'on va introduire la chose en musique. Alors deux semaines d'affilée, on va entendre Jacques Higelin.
Ah bah
donc deux semaines d'affilée, tu vas être content. Ouais. C'est pour compenser avec le reste de l'émission. Tu vas voir.
Oh, j'ai pas.
Voilà. Allez, on va écouter un peu Jacques Higelin qui va nous parler un petit peu d'horreur à sa façon.
Super.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Cauchemars, fantômes et squelettes, les sifflets aux inéloires, près de la mare aux oubliettes, venus du sphère obligatoire. Lutin, lucioles, feu follet, elfes, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu de dû me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous avez remarqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de l'ubérique vestale, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Envoie satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilles émues, fières gorgones, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. Tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques, et ne se dresserait un bon dans un concert de jurons disant d'un tout pathétique que l'état des obscènes cyniques n'est corrompu pas du grief de leur peine à ceux qu'ils ont élus, car devant tant de problèmes
déjà le ciel blanchi. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cocher lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me chercher sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Champagne. 17h-18h, réussite éducative sur RCN.
Merci David.
De rien, Chamallow.
Ouais, t'as vu, on dirait comment on a trop bien répété l'émission.
C'est magnifique.
C'est super. Non, non, mais c'est bien. Mais moi, tu passes des trucs. Je connaissais pas cette chanson, mais ouais, c'est... moi, je sais que ça existe.
Voilà.
Et sans plus tarder, tout de suite, vers ma gauche, c'est ça.
C'est ça, tout de suite, sans plus tarder. Alors, l'émission de la semaine dernière, j'étais ultra content parce qu'on a abordé Tolkien, le fantastique, machin, etc. Et moi, je suis ultra fan. Et puis là, d'un seul coup, on a Emma qui arrive, qui va parler de jeux vidéo. Déjà, moi, ça me plaît bien aussi. Qui va parler de jeux vidéo d'horreur, ça me plaît encore plus. Du coup, bah, voilà, je suis très, très content. En tout cas, je suis content qu'on t'accueille à nouveau. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, donc, sur ce jeu, sur ce que tu... Enfin, je te laisse laisser la parole parce qu'en fait quand je parle c'est pas très intéressant.
Éclair de lucidité, pardon.
C'est ça.
C'est un jeu où il a des robots qui doivent nous manger, sauf un qui nous aide à s'enfuir du monde pour pas se faire tuer. Il a plusieurs fins. Il en a une où on doit faire brûler l'endroit, une autre où on s'enfuit mais on se refait attraper après, et il en a d'autres qu'on connaît pas encore. Et il a un que j'aime bien comme personnage, il s'appelle Monty, c'est un alligator. Il a tué un lapin qui s'appelle Bonnie pour prendre sa place dans le groupe de musique. Il avait Freddy qui est un ours, Chica qui est un canard et Foxy qui est un renard.
Ouais, c'est rigolo un jeu d'horreur avec des animaux, qu'est-ce qui se passe?
Et du coup on a dû casser Chica, Roxy et Monty pour prendre les objets. Monty, il a des griffes. Roxy, elle a les yeux pour voir à travers les murs. Chica, elle a un bec pour faire fuir les autres. Et Monty, on ne sait pas ce qui s'est passé pour l'instant. Et on attend de savoir ce qui s'est vraiment passé pour vraiment voir s'il est vraiment mort ou pas.
Alors, j'aime bien parce que du coup, il y a un mélange d'éléments très sinistres, hein, clairement. Et moi, je reviens là-dessus. Il s'appelle comment ce jeu ?
Five Nights at Freddy's.
Ok. Et on revient donc sur des animaux. Mais alors, Emma, c'est bizarre parce que des animaux, ça fait pas peur normalement. Enfin, un alligator, je dis pas. comment on joue à ce jeu ? Vas-y, explique-nous un peu comment ça fonctionne.
On peut jouer sur plusieurs consoles. On peut jouer sur ordinateur, Switch, PS4 et plein d'autres objets pour jouer. Et je conseille de l'acheter parce qu'il est trop bien.
Alors pourquoi il est trop bien ? Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce jeu ?
On doit faire des missions pour réussir à s'enfuir. Et il a un personnage qu'il est vraiment plus grand que tous les autres. C'est celui-là qui fait de la musique. Et il nous court après, il nous balance des objets. Mais on doit éviter les objets pour pas mourir.
Et toi, en tant que joueuse, alors tu joues un des animaux ou tu joues un autre personnage qui essaie d'échapper à ces animaux ?
On joue un petit garçon qui s'appelle Grégory.
Alors là, ça devient vraiment sinistre parce que un petit garçon poursuivi par des animaux, là du coup, tu mets l'élément du petit garçon, ça devient sinistre. Ça fait un peu ça fait penser à les peurs qu'on a quand on est enfant. Parce qu'il y a un alligator dans les monstres, on est d'accord ? Oui. Ça, c'est un jeu que je connais de nom, mais auquel j'ai jamais joué d'ailleurs. Parce que moi, quand j'étais petit, allez, j'avais dit que je parlerais pas. Quand j'étais petit, j'habitais dans un immeuble et il y avait un local à poubelle en bas et je devais descendre les poubelles dans le local à poubelle. Et j'avais peur qu'il y ait des alligators dans le local à poubelle. Et la nuit, je rêvais de ce local et il y avait de l'eau en fait à la place du sol, tu vois. Puis il y avait des. Et faut pas que je joue à ce jeu du coup.
Des alligators dans le local à poubelle. Mais David Moi, du coup, j'en profite, paf. Très intéressant cette histoire du bestiaire animal, parce que c'est quand même une longue tradition. souvent quand même dans les récits. Je pense à la ferme des animaux en t'écoutant, mais bien sûr, il y a un héritage aussi chez La Fontaine. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu ce, cette filiation du bestiaire animal pour représenter le monde des humains, des comportements divers et variés, en fait, pour nous, qu'il y ait une réflexion. Donc je trouve ça déjà intéressant que ça s'insère là-dedans. Et je vais méditer. Pourquoi ? Pourquoi on passe par ce biais-là ? Peut-être parce qu'il y a un côté, justement, à la fois ludique, et ça ouvre tout un champ de perspectives dans la narration, de passer par des animaux, tout ça. Ça serait... ouais, c'est vrai qu'il y a une longue tradition là-dessus. Donc c'est très intéressant. Et, mais du coup, moi aussi, j'allais te poser la même question, c'est-à-dire que le personnage que tu joues, et dans un monde animalier, le bestiaire animal, mais t'es un petit garçon confronté à ça. Et c'est vrai que du coup, ça change quand même un peu tout par rapport aux peurs. Donc moi, je ne descendais pas les poubelles au pays des alligators. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des animaux qui vont avoir une connotation plus ou moins...
Il y a des animaux qui font peur, ouais,
qui font peur traditionnellement.
Qui font peur, ouais.
Les araignées, par exemple, du coup, j'arrêterai de jouer, moi. Donc, et ça, ça, ça t'a plu, justement, ça. Parce que tu parlais de la mort, là, tu disais, tu l'as utilisé le mot trois fois, et ça m'a frappé. Donc, il y a ce concept-là, quand même, dans le jeu. Voilà, on peut mourir, pas seulement celui qui joue, mourir au sens de j'ai perdu, je recommence une partie, mais dans la narration, il y a un personnage qui a tué un autre. Tu disais tout à l'heure, il a tué le lapin pour prendre sa place, etc. Ce qui veut dire que, voilà, c'est déjà un jeu. Ouais, c'est pas pour les petits, quoi. Il y a déjà tous ces concepts-là.
Non, c'est un jeu pour les grands, mais je peux y jouer parce que ça fait... Moi, j'ai l'habitude d'y jouer parce que j'ai pas peur.
Ouais, je te plaçais pas dans le camp des petits, justement. Hein, loin de moi. Je parlais des... Voilà, bien entendu. Mais ce que je veux dire, il y a quand même la mort, mais il y a aussi le meurtre, apparemment. Hein, le fait de tuer pour prendre la place. Donc, le désir de la gloire ou de la richesse ou d'une place importante, etc. Enfin, il y a tous ces concepts là quand même dans le jeu qui me semblent... Ouais, et toi, ça te plaît tout ça ?
Oui.
Ouais.
Ça ressemble à quoi en fait ? Est-ce que ça a un côté justement c'est à la fois horrible et amusant ? Ou est-ce que c'est vraiment horreur, genre tu flippes tout le long où tu joues ? Il y a des jeux comme ça, je redoute d'y jouer. C'est ça que j'aime bien d'ailleurs. Mais voilà.
C'est amusant parce qu'on est dans un parc d'attractions qui est dans une pizzeria et il a plein de petits jeux. Et le seul qui nous tue pas, c'est Freddy qui est l'ours. Il nous aide à s'échapper. On peut se cacher dans son ventre parce que son ventre s'ouvre. Du coup, c'est trop bien.
Du coup, ça a l'air d'être créatif. Alors, c'est rigolo que le personnage qui... Le seul qui est gentil, c'est Freddy, qui est quand même un des gros méchants du cinéma. Un des gros monstres
non,
du
peur,
cinéma.
Alors.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire sur ce jeu ? Parce que je vois que tu avais pris beaucoup, beaucoup de notes.
Non.
D'accord, on a fait le tour. Est-ce que tu as déjà joué à d'autres jeux comme ça qui sont des jeux d'horreur ? Parce que là, on parle d'un jeu d'horreur, effectivement, finalement, qui fait pas vraiment peur. Ou qui fait quand même un peu peur. C'est-à-dire, genre, je reprends
ça
ma question d'avant.
Ça fait un peu peur, mais... Ça fait pas, on peut pas faire des cauchemars.
D'accord, on ne peut pas faire de cauchemars. C'est la garantie du jeu.
On dirait un slogan, tu sais, on ne ferait pas de cauchemars.
Et est-ce qu'il y a un côté un petit peu gore, justement ? C'est-à-dire qu'on va avoir du sang, on va avoir du...
Non.
Ça reste assez soft là-dessus, d'accord.
Sauf dans une des fins où Freddy se fait casser et on peut casser le lapin, mais c'est une humaine qui est avec un costume lapin où on voit du sang, mais c'est en animé.
D'accord, ouais. Du coup, t'as un certain suspense, alors. Enfin, t'as des surprises, je veux dire.
Oui.
Tu sais qui est l'éditeur du jeu ?
Non.
C'est pas, j'aime bien savoir à chaque fois, parce que des fois, c'est intéressant de faire l'affiliation avec d'autres jeux qu'ils ont fait. Mais c'est pas grave, c'est pas forcément nécessaire. Et donc, oui, est-ce que toi, tu connais ou tu as déjà joué à d'autres jeux comme ça qui peuvent jouer sur vraiment le côté horreur et qui font peur ?
Non.
Bon, écoute, ça viendra peut-être en grandissant, comme tu dis. Effectivement, il faut faire un petit peu attention avec ça. On a parlé la semaine dernière des réseaux sociaux, en disant que c'était, enfin, c'est mon discours à moi, que c'est juste un outil. Et des fois, on n'en fait pas des bonnes choses, mais parfois aussi, on peut faire des choses bien. Il en va de même avec les jeux vidéo. À la fois, faut faire attention à la pratique qu'on en a, et en même temps, je suis un énorme fan et je suis convaincu que ça apporte beaucoup de choses et que ça peut être des œuvres d'art à part entière à mon goût.
Mais c'est vrai que là-dessus. Hein, je sais qu'on n'a pas forcément le même avis, mais c'est parce que moi j'ai un avis de novice, toi t'as un avis de joueur, et on en a déjà parlé, on avait fait une émission il y a très longtemps, donc je suis sûr que c'est il y a plus de 5 ans, mais on tiendra les auditeurs en haleine pour cette date. Mais sur les jeux vidéo, parce que moi je ne crois pas du tout à la fonction cathartique des jeux vidéo, et aide-moi sur les noms que j'ai parfois à la maison malheureusement beaucoup entendu, mais les noms des jeux vidéo, de guerre, etc., des jeux où on entend... que des tirs comme ça. C'est comment ils s'appellent ces jeux vidéo très connus, très très célèbres. Les ados, ils jouent à de la guerre.
Il y a les Call of Duty.
Voilà, c'est ça. Ça, puis il y en a un autre. Mais c'était celui-là que je pensais, mais il y en a un autre qui est à peu près pareil. Et le jeu dont tu parles n'est pas à ce niveau-là de violence que le jeu dont on vient de parler. C'est pas un jeu de guerre. Il n'y a pas de plaisir à regarder.
Non,
c'est quand même de l'aventure, même s'il y a un peu d'image violente, mais c'est plus l'aventure qui te plaît que le jeu dont il a parlé, c'est-à-dire qui est bêtement tuer des gens sans arrêt. Non.
Oui.
Non, c'est ça. Et c'est un jeu de plateau comme Mario ? Parce que moi, je sais ce que c'est. J'ai l'impression, jeu de plateau.
De plateforme.
Plateforme ? On dit pas
de
jeu de plateau ?
Non, jeu de plateau, c'est tu poses le plateau sur la table et tu joues.
C'est
le
jeu de société.
C'est le jeu de société.
Arrête, je te pose une question après. Ah, je suis quand on joue aux dames, c'est ça ? Mais nous aussi, on avait nos jeux d'horreur. Parce que moi, je me souviens, Frog, il fallait faire traverser une petite grenouille. Ouais, finalement, ça faisait peur aussi. T'as pas connu ça ?
Non ? Il me dit rien, celui-là, dis donc.
Ah bah,
en jeu vidéo, on est d'accord.
Ouais, mais il y a longtemps, à l'époque.
Ça me dit trop rien, comme ça.
À l'époque. Puis il y avait aussi deux raquettes, mais c'était deux barres comme ça, et il y avait une balle qui est passée. C'était comme une jeu de ping-pong, je sais plus comment ça s'appelait, sur Astrapi.
Amstramgram. Amstrad, peut-être.
Ah oui, Amstrad.
Astrapi, c'est un magazine de jeunesse. C'est ça. Chamalo.
Amstrad, c'est ça. Mais ça, c'était bien, ça faisait peur quand même. Parce que quand tu ratais la balle. Et ben, puis la raquette, elle montait pas à la vitesse que tu voulais quand la balle arrivait. Ça faisait peur. Et
entre ce jeu-là et celui d'Emma, je vous dirais que moi, je pense que celui d'Emma fait un tout petit peu plus peur.
Mais du coup, j'ai une question justement par rapport au jeu qui était les miens, où il y avait juste une petite grenouille, un machin, deux barres qui. Maëva, arrête, hein, je suis pas né dans les années 20 quand même. Du coup, une question sur les images. Parce que je sais qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, finalement, c'est pas comme à mon époque, quoi. Donkey Kong, tout ça. Mais maintenant, c'est carrément des images. Comment sont les images là ? C'est-à-dire, c'est le monde réel ? C'est quand même très, très dessin animé ? C'est comment
C'est plutôt très réaliste ou plutôt
très
dessin animé, comme tu dis ?
Traduit
les deux.
Les deux ?
Oui.
C'est-à-dire les deux ?
Bah, on peut se faire attaquer, mais quand on se fait attaquer, ils sautent pour nous attaquer et on voit leur visage. Et du coup, c'est réaliste, mais quand c'est les affins, en animé, c'est un peu dessin animé.
Ah, d'accord, ouais, ça mélange les deux.
Ouais, c'est chouette. Ouais, un peu comme Michael Jordan avec Bugs Bunny quand j'étais petit. Je sais plus comment ça s'appelait, ça te rappelle ? Mais si, il y avait un film comme ça.
Et oui, ça me dit vaguement quelque chose en plus.
Vaguement, c'est sympa.
Vaguement, ça m'évoque un truc, ouais.
Ouais, bah, super, bah, merci. Et donc, tu le conseilles à tout le monde ?
Oui.
D'accord. Je sais plus si la personne qui est à gauche avait prévu de prendre la parole, donc si tu peux me permettre une question. Tu peux ?
Non ? Je vous écoute.
Ah, merci. Je sais pas, parce qu'il y en a des fois qui se mettent assis, on sait pas pourquoi, alors qu'ils veulent pas parler. Hein. je plaisante, Maïva. Non, mais une petite question, parce que du coup, comment ça se passe, la gestion du temps, le jeu, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel regard vous portez là-dessus ?
Quel regard sur ce jeu, bah oui. Par exemple, ou sur...
Ouais, sur ce jeu et puis sur la pratique.
Déjà, moi, j'y joue pas au jeu, là.
D'accord, ça c'est fait. Et voilà, mais quel regard vous porter sur sa pratique du jeu.
Je lui laisse une heure et demie de temps en temps. Il y a autre chose à faire. Mais pour lui faire plaisir, je le laisse un peu jouer.
Et quel regard sur un jeu comme celui-là, du coup ?
Bah, en fait, je ne m'y suis pas intéressée encore.
Okay.
Là, ils m'ont appris pendant les grandes vacances à jouer à Fortnite.
Ouais. Qui nous avait été présenté par Emilio à la fin de l'année dernière,
oui.
D'ailleurs. D'accord. Quand ouais, passant.
Je ne partais pas grand-chose, mais...
Or, j'ai commencé à jouer à Fortnite.
Alors, point de vue de maman sur Fortnite et point de vue d'adulte sur Fortnite, ça m'intéresse.
Moi, j'aime bien, je m'éclate.
Alors, qu'est-ce qui marche ? Alors, ça, c'est super aussi d'avoir une adulte qui en parle. C'est quoi qui fonctionne dans un jeu comme celui-là ?
Ben, en fait, c'est vrai que les enfants y jouaient et tout. Ça m'intéressait pas trop. Et à force de les regarder, puis. Ils me saoulaient à parler toujours du jeu là. J'ai dit bon, je vais regarder. Puis ils m'ont fait essayer une game. Ça m'a plu. Alors maintenant, je joue avec eux.
Ouais, c'est sympa. Comme quoi, c'est familial, quoi.
Ça crée des liens. Je trouve ça plutôt très bien. Moi, j'aime bien l'idée.
Donc la légende urbaine que ça éloigne, que ça ferme la porte de la chambre et que ça réduit la famille. Voilà, non, pas du tout.
On joue ensemble.
Ouais, c'est sympa.
Bon, après, c'est pas systématique, mais oui. Mais j'aime bien cette démarche. Cette démarche là, moi, c'est intéressant. En fait, on peut s'y intéresser et finalement trouver que le jeu est pas intéressant. Voilà, mais au moins on sait ce qui est pratiqué, quoi. J'ai joué à un simulateur de vol avec des gros pixels pourris vers 1989 et ma grand-mère était venue me voir comme ça en me disant mais qu'est-ce que c'est, elle m'avait posé plein de questions, elle avait regardé et j'ai retenu ça, enfin mine de rien aujourd'hui je me dis que ça a été un moment qui était surprenant pour moi mais aussi super intéressant parce que du coup j'étais vachement heureux de lui raconter. Et moi, c'est un peu comme ça que j'aime bien approcher les questions familiales autour des jeux vidéo. Et pour rappel, hein, on avait fait un projet il y a pas mal d'années maintenant avec la coordination territoriale de soutien à la parentalité à la Clairière, où on avait effectivement invité des parents à jouer à des jeux avec leurs enfants adolescents en se reposant sur une association qui fait ce qu'on appelle du rétro gaming, donc des jeux anciens avec des vieilles consoles, des jeux très simples qui sont accessibles à tout le monde. Et c'était génial de voir des parents, on a monté un petit championnat et tout, et c'était super de voir des parents qui finalement se prenaient au jeu complètement, qui étaient à fond dedans, et quand on les interrompait pour un truc, ils étaient là, ah non j'ai pas fini, mais non, exactement comme finalement les ados qui sont, on le voit à cette occasion du coup, des gens comme les autres. Et c'était vraiment bien quoi, et c'est vrai qu'au moment de la petite compétition au binôme, les parents étaient à fond, ah machin et tout, mais comme à un match de foot, peut-être pas de la SNL en ce moment, mais une équipe du foot SNL où il y aurait des enjeux.
Mais de toute façon, vous pouvez me faire croire ce que vous voulez sur tout Fortnite, le truc que tu as dit tout à l'heure que j'ai encore oublié, les jeux de guerre, l'horreur, tout. Rien ne fera jamais aussi peur dans un jeu vidéo que lorsque vous attendez désespérément au Tetris une grande barre toute droite et qui vous envoie des trucs en zigzag sans arrêt et que vous vous dites, mais il y a une conscience dans ce jeu parce qu'avant il en envoyait plein. Depuis que je l'attends cette barre, elle n'arrive plus. Et ça... Quand vous voyez arriver un cube ou un zigzag, alors vous avez besoin de la ligne droite et que vous montez de plus en plus, rien ne fera plus peur que ça. J'en suis sûr.
C'est, pour le coup, c'est un vrai stress.
Non, mais ça, c'est un vrai stress.
Moi aussi, j'y jouais aussi à Tetris.
C'est un vrai stress.
Mais ça, vraiment.
J'y ai joué il n'y a pas longtemps, ça marche toujours.
Ah ouais, ouais, mais ça, c'est addictif en plus.
Terriblement.
C'est terrible. Ouais.
Mais ouais, non, mais c'est des choses qui sont intéressantes, je trouve. Emma, on te retrouvera pour d'autres chroniques cette année ?
Oui.
On sera sur du jeu vidéo ou sur d'autres choses, tu sais déjà un petit peu où ça va se travailler. Alors je le rappelle, mais t'en reparleras peut-être Maëva, on a parlé la semaine dernière sur le fait que tu vas encadrer
ouais, des ateliers pour préparer justement les chroniques de ces émissions.
Et vous avez bossé toutes les deux si je dis pas de bêtises.
Ouais, bah pour ouais. celle-ci ouais, on a travaillé son texte.
C'est cool. C'est cool. Moi, je suis vraiment content qu'il y ait ça. Je suis vraiment content qu'il y ait ça.
Petite pause.
Je crois que ouais, merci beaucoup, petite pause, une petite pause d'horreur encore.
Oh.
Si vous voulez faire mon bonheur, emmenez-moi voir un film d'horreur. Pas besoin de salle climatisée pour frissonner même en été. J'aime le sang qui coule le soir au fond des bois. J'aime entendre les cris des victimes que l'on noie. Mais attention, quel est ce bruit? Un volet claque, mes dents aussi. Si vous voulez faire mon bonheur, arrangez-vous pour que j'ai peur. Quand j'apprenais en classe l'histoire des rois de France, c'était vers ce bon Louis XI qu'allaient mes préférences. Celui qui a lancé l'usage de mettre ses rivaux en cage. Si vous voulez faire mon bonheur, mon seul plaisir c'est d'avoir peur. Et quand parfois je rêve à mon prince charmant, il n'aura pas besoin d'être beau, d'être grand, pourvu qu'il soit anglais et chanteur. Je resterai dans le domaine de l'horreur. Et comme cette histoire doit finir, salut, je vais retrouver mon vampire.
Réussite éducative sur RCN.
Alors, chers auditeurs, ah oui, d'y voir quand même, parce que ça, c'était. Moi, je cautionne pas, c'était quoi ?
T'as été totalement traumatisé. Oui. C'était Stéréo Total qui chantait film d'horreur. Alors, c'est pas leur chanson la plus accessible, mais c'était celle qui était la plus dans le thème.
Ah, ils en ont fait d'autres ?
Waouh ! Ils ont produit des choses.
Oh punaise. Et je crois que maintenant, on arrive dans un moment de l'émission. Donc, attendu, les chers auditeurs, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, appeler des gens dans la pièce où il y a le transistor. On dit encore transistor, non ?
Pas des masses.
Pas des masses, ouais. Ça rappelle une belle chanson de William Scheller. Tiens, on passera à William Scheller la semaine prochaine. Très joli. Si, c'est un vrai chanteur. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à appeler plein de monde parce que c'est un moment attendu. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous parler maintenant, hein, David. Quelqu'un qui a dit il ne faut pas filmer l'émission, sinon j'aurais du mal à parler. Voilà. Concept qui continue de me perturber là, parce que j'analyse la phrase. Voilà, mais je te laisse peut-être la présenter, non ?
Très rapidement, en fait, Maëva, t'es arrivée en stage sur le dispositif de réussite éducative de Maxéville, qui est le nom à rallonge, au début du mois de juillet, si je me souviens bien.
C'est bien ça. Voilà.
Puis après, t'es repartie. Parce que c'était les vacances.
Vacances.
Puis après, t'es revenu.
Je suis revenu.
Et donc voilà, ça fait un petit peu de temps maintenant que t'es là. Tu seras là jusqu'au mois d'avril, donc on t'entendra.
Souvent.
Ouais, voilà. Merci, c'est la réponse que j'attendais. Et donc voilà, on a dit effectivement que tu pouvais travailler avec les jeunes pour préparer un petit peu les chroniques. Il y aura sûrement d'autres choses, peut-être d'ailleurs autour de la radio. On verra comment ça se développe. Et puis voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu es en formation.
Oui.
Et que donc tu es en formation pour apprendre un métier.
Qui est éducateur spécialisé.
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Je peux. Donc, en gros, l'éducateur spécialisé, il peut accompagner dans une démarche éducative plusieurs publics, que ce soit les enfants, les adultes en situation de handicap, les personnes confrontées à des difficultés sociales, les mineurs en danger, ainsi que les anciens détenus, et il y en a encore. L'éducateur spécialisé, il accompagne tous ces publics avec un objectif qui est la... plusieurs objectifs qui sont la responsabilisation, l'accès à l'autonomie et l'insertion sociale. Et donc ainsi, il conseille des mamans célibataires, il encadre des jeunes de quartier et il élabore des projets éducatifs pour des personnes déficientes intellectuelles. L'éducateur spécialisé, il est confronté à des situations souvent dramatiques et parfois complexes, donc il doit avoir un solide équilibre psychologique et surtout le sens des réalités. À l'écoute des autres, il sait aussi se montrer ferme dans ses décisions et persévérant dans ses actions. Pour être éducateur spécialisé, il faut effectuer 3 ans de formation dans une école spécialisée qui s'appelle l'Institut Régional du Travail Social. Donc pour ma part, j'effectue mes études en 3e année de formation à l'IRTS de Nancy, qui est située au Dulièvre, pas très loin de la radio.
Mmh.
Et du coup, comme tu l'as dit David, je suis en stage sur le dispositif de réussite éducative de Maxéville. Jusqu'au mois d'avril.
Jusqu'au mois d'avril 2024.
2024.
Pas 2029, oui. Par exemple, tu vois.
C'est clair.
très bien. Est-ce que tu saurais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé vers cette formation-là ? Quel parcours t'a poussé vers ce choix ?
Depuis petite, en fait, j'ai toujours été bercée par l'associatif, de par mes parents. Ma mère a travaillé dans le milieu du handicap, donc j'ai toujours été confrontée aussi à ce public. Et donc, j'ai, par la suite de mes études au collège, j'ai fait un lycée pro, en gros. Donc, ça s'appelle Terminal Service de Proximité de Vie Locale. Donc, dans cette filière pro, j'ai pu effectuer des stages toujours dans le milieu du handicap et de l'associatif. Et c'est ce qui a conforté, du coup, mon projet de m'inscrire sur Parcoursup à l'IRTS à la fin de la terminale. Donc, j'ai été sélectionnée et du coup, voilà, je suis dans la phase terminale du coup, de ces études. Je suis en dernière année. Donc, voilà.
Merci.
J'ai bien aimé la métaphore de « j'ai été bercé par », etc. Parce que finalement, c'est bien quand même qu'on fasse de temps en temps des portraits comme ça, des choix de vie, des choix professionnels. Et on se rend compte finalement, je pense à la jeune fille qu'on a reçue là, qui rêve d'être avocate aussi et qu'on recevra encore. Nos choix professionnels sont souvent quand même le produit, finalement, comme terreau, notre enfance, notre jeunesse, etc. Et ce qu'on a pu observer. Et donc, c'est intéressant hein, de voir à quel point, finalement, on va puiser dans tout ça. Et c'est beau ce que tu dis là. Mmh. Finalement, tu t'engages parce que tu as pu observer, côtoyer ça. Et c'est chouette, du coup. Non, mais bravo. Bravo. Et puis, bonne continuation. Hein.
Merci.
Et t'as vu comment j'essaie de parler tout, sérieusement, tout, parce que quand t'as dit que tu risquais d'avoir des fous rires, j'étais tout concentré. Tu vois, j'étais écouté attentivement. Je voulais pas te déstabiliser.
D'ailleurs.
Non, mais c'était très bien. Puis, non, c'est chouette. Et c'est combien d'années, là? Parce que t'es à la 3e année, mais du
c'est
coup.
C'est la dernière, là.
Ah, waouh. Ça rigole pas.
Ah, bah non.
Parce qu'il y a quoi, un examen à la fin, là, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est... En fait, j'ai un mémoire à effectuer tout au long de cette année de stage avec David. Et j'aurai une soutenance orale sur ce mémoire. Il n'y a pas que ça, il y a quelques oraux et dossiers à rendre au cours de l'année. Mais voilà.
On peut dévoiler la thématique de ton mémoire ?
La monoparentalité. Je pourrais peut-être éventuellement en parler les prochaines chroniques.
Bah oui, une fois que tu auras un peu avancé sur ce boulot, oui, ça serait super intéressant d'en parler.
Et je pense aussi, oui.
On pourrait se monter une émission justement aussi avec des parents qui pourraient témoigner et puis mettre en regard de ce que toi tu montes un petit peu de manière théorique. Je trouve que ça serait pas mal. Je vais pas te lâcher quand même sur le sujet parce que.
Mais je demande une émission là-dessus, David, parce qu'on l'a abordé de temps en temps de manière fragmentée. Ouais. Je me souviens d'un monsieur qu'on avait reçu.
Oui,
tout
oui,
ouais,
oui,
ah, d'accord.
Bah oui.
Stéphane, je ne sais plus.
Oui, Stéphane.
C'est ça
de son prénom.
Oui, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça serait intéressant de faire une émission. Peut-être après la soutenance ou
ben, tu ou verras avant, bien.
Ou avant,
un entraînement.
Et tu sais pourquoi instinctivement j'ai dit après? Parce que, voilà, pour des raisons personnelles, je sais qu'avant une soutenance, il y a des choses des fois qu'on ne veut pas dire parce qu'on veut les garder pour notre mémoire.
Je pourrais faire un retour aussi après, pourquoi pas.
Oui, bah après, ça peut s'imaginer.
Mais c'est quand tu veux. Mais c'est vrai que c'est une thématique qu'on a déjà abordée des fois de manière fragmentaire et qui nous intéresse, non? Enfin, je pense.
Ah bah oui, oui, oui. Bah c'est d'autant plus intéressant. Enfin, on en a parlé justement avec Maëva qu'on est sur le DRE de Maxéville sur le quartier Champ-le-Bœuf. En termes statistiques, on a quasiment 50% de familles monoparentales. Donc en fait, c'est un vrai sujet. Et puis on s'est posé la question aussi de qu'est-ce que c'est finalement que la monoparentalité, de quoi on parle, comment on la définit, où ça commence, où ça s'arrête. Excusez-moi, on me perd décidément. Et donc voilà, c'est un sujet qui est très vaste. Et puis moi, je suis content que tu aies choisi ce sujet-là parce que du coup, tu vas le défricher et on va le défricher ensemble. Et moi, ça va me permettre de bosser dessus aussi, en fait. Parce que je rencontre des gens qui sont dans cette situation-là un peu à longueur de temps, mais j'ai jamais l'opportunité de prendre du recul dessus et de questionner finalement cette notion. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'adore avoir des stagiaires. Je le dis toujours quand j'ai les stagiaires UGE qui viennent en février-mars, donc pas cette année parce que Maëva est là jusqu'au mois d'avril. Mais c'est toujours le moment, effectivement, pour moi, professionnellement, de prendre du recul et d'avoir des gens qui viennent me poser des questions ou m'interroger sur des questions que je ne me pose absolument jamais dans mon boulot. Et ça, c'est extrêmement important parce que si quand on n'a pas de recul sur ce qu'on fait, c'est là qu'on fait des choses qui ne sont pas forcément de bonne qualité, souvent. Entre autres raisons. Entre autres raisons.
Non, mais c'est bien de souligner aussi le stage, là, parce que moi, je ne savais pas tout ça. Et alors, je vais lui lancer des fleurs, mais je trouve ça bien que dans ta formation, il y ait ce contact, c'est pas que théorique, quoi. Il y a ce contact avec le terrain, on peut pas être plus sur le terrain qu'avec David et puis dans ce qu'il accomplit chaque jour, quoi. Tu me feras le chèque tout à l'heure. Mais
c'est vrai, parce que là, c'est, tu veux pas le redire.
Non, mais tu sais, en plus, tu sais que je le pense. Mais du coup, je trouve ça intéressant qu'une formation, un éducateur spécialisé, et voilà, dans sa formation, il y a la réalité, quoi.
Ben c'est ça permet d'acquérir un peu d'expérience avant d'être jeté dans le bain, si je peux dire ça comme ça.
Ouais. C'est un métier que vous connaissez, éducateur ou éducatrice spécialisée?
Non.
Non, ça m'intéresse aussi d'avoir ce point de vue-là.
J'en ai entendu parler, mais j'en avais jamais rencontré.
Et vous en avez quelle image un petit peu comme ça de l'extérieur?
Des fois, ça peut aider.
Ouais. Ça peut aider pourquoi alors?
Entre difficultés entre parents et ados.
Ouais. Ok. Ok. Voilà. Bon, alors, le petit. Tu sais ce que c'est, un spoiler?
Attends. Un spoiler.
Je tente des trucs avec toi.
C'est soit un petit vaisseau dans la guerre des étoiles. Non, c'est pas ça?
Non, vas-y, fais comme si t'as.
Soit tu veux dire des trucs qu'il faut pas dire à l'avance alors que les gens ils veulent pas le savoir trop tôt, c'est pas ça?
C'est ça, un
c'est
peu.
C'est un
hein.
peu ça, ouais.
C'est un peu ça, non?
Ouais, ouais.
Et bah, le problème, c'est que je suis éducateur spécialisé aussi, dis donc.
Mais alors, tu sais quoi? Alors, je vais te dire un secret. Quand elle a commencé à parler, j'ai une question qui m'est venue en tête. Et tu sais, dans la radio, on a plein de questions qui nous viennent et on se fait des fois soi-même, on se dit non. Et j'allais justement te dire, mais c'est pas ce que t'as fait toi. Mais quand, après, je me suis dit, ça se trouve, je vais dire une bêtise. Il va me dire pas du tout, il faudra couper au montage. Donc, ouais, c'est ce que t'as fait toi aussi, non?
Ouais, bah oui. Ouais, et alors, c'est rigolo parce que du coup, les éducateurs spécialisés, pour la blague récurrente, quand on est dedans, c'est un peu pénible, ils sont spécialisés en tout et en rien, entre guillemets. Quoi.
Ouais, parce que c'est super vaste, c'est comme j'ai dit. Ouais.
Et toi, comment t'imagines ton avenir professionnel? Tu le vois dans quelle branche, dans quel domaine?
Bah, jusqu'à maintenant, parce que c'est le milieu dans lequel j'ai plus d'expérience. Et je disais que je voudrais effectuer mon métier d'éducateur spécialisé dans le milieu du handicap adulte. Que tous mes stages et toutes mes expériences sont en lien avec ce public-là. Et ça me plaît énormément. Mais je sais pas pourquoi, mais là, bizarrement, j'ai jamais trop voulu aller vers les enfants. Et là, le DRE, c'est pas les enfants comme dans une institution, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, je dirais pas que ça me plaît autant que le milieu du handicap, mais ça me plaît, donc pourquoi pas remettre en cause tout ça.
Oui, puis en fonction des opportunités aussi, oui, t'auras après ton, voilà, oui, après ton diplôme. Mais c'est bien, ça, il va être bien ce stage.
Ouais.
je suis content d'entendre ça.
C'est marrant quoi, elle a démarré en disant, mais finalement, je crois qu'elle allait dire, mais finalement, je voudrais m'orienter vers la radio. Mais non,
allez,
pas du tout. Allez, on fait ça. Allez, top là.
Il fallait pas lui demander deux fois.
Non, mais connaissant David, je pense que vous êtes surtout spécialisé au sens de l'écoute et de l'adaptation à un public particulier et à personnaliser voilà, les cas auxquels vous êtes confronté.
Je pense qu'il n'y a pas de spécialisation particulière en termes de public, puisqu'au final, on est formé pour intervenir dans tous.
Mais pour être adaptable, c'est ça que vous voulez dire.
Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et après, moi, j'ai... pour moi, fondamentalement, c'est aussi de se dire qu'on a des compétences particulières par notre formation et des compétences particulières sur le lieu où on exerce, qu'on finit par apprendre, etc., etc. Mais que c'est à chaque fois que des choses qui sont là pour être mises au service, finalement, d'un public. Enfin, du coup, l'intérêt du public, c'est vraiment le cœur du truc, quoi. Tout. En fait, dans le boulot d'EduxP, parce qu'on peut aussi être amené à être sur des postes un petit peu d'encadrement, des choses comme ça, je trouve que c'est toujours... Et du coup, on se retrouve des fois dans des polémiques, des trucs compliqués à mettre en place, des réunions ou un peu prises de tête. Et il faut surtout qu'on repense toujours à dire, ok, maintenant on s'est pris la tête sur une question d'organisation ou de légitimité ou sur une question politique, ça peut arriver aussi quand on est dans des collectivités. Mais alors, pour le public qui est concerné, on en est où? Et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va apporter? La question, elle s'est posée il y a quelques jours comme ça, et c'était vraiment la question de, ok, maintenant qu'on s'est dit tout ça et qu'il y a eu tout ça, le gamin, au final. Enfin non, c'était aujourd'hui d'ailleurs que, ouais, ça, c'est, que la question s'est posée.
Ouais, ouais.
Et c'est toujours, on en revient à, bon, mais faut pas oublier de faire ça. Et moi, en l'occurrence, le gamin, mais c'est qui que ce soit, en fait, quelle que soit la personne accompagnée, la personne qu'on reçoit, et puis c'est de se dire qu'on est juste une personne qui a des ressources qui sont adaptées à un problème, mais qu'on n'est pas plus... ou moins d'ailleurs que les gens avec lesquels on travaille, que notre public. Enfin moi, je trouve qu'il faut vachement toujours garder ça en tête, parce que les EduxP et puis finalement les travailleurs sociaux, on peut rapidement aussi dériver et avoir une sensation un peu de toute puissance ou d'être... Et je pense qu'il faut faire super attention à ça et pas oublier qu'en fait on est au même niveau que les gens qu'on reçoit. On est, enfin, de se considérer comme à égalité. Simplement, on a une connaissance supplémentaire, une ressource supplémentaire dans une situation donnée qui va servir à quelque chose. Mais après, enfin voilà, moi, comme dans les accompagnements que j'ai, il y a aussi plein de gens qui savent faire des trucs que moi je sais pas faire. Si on était dans une situation qui mettait en avant ces compétences là, bah on serait dans la position inverse. Donc j'essaie toujours de garder ça en tête et puis de pas trop choper le melon, comme on dit. C'est un petit peu ça l'idée quand même, mais voilà, de savoir un petit peu rester à sa place finalement.
Mais il faut une bonne connaissance, je pense aussi, de tout ce qui est de les aides, les organismes. Oui. Et ça, c'est quand même toute une connaissance théorique importante.
Évidemment, mais ouais, c'est ça. C'est effectivement, nous, on apprend un certain nombre de choses qui vont être utiles dans des situations données. Et c'est là qu'on intervient et puis qu'on essaie de se rendre utile et de faire les choses. Et on apprend aussi des techniques d'entretien, des techniques... toutes les questions de bienveillance qui existent aussi dans ces métiers-là. Bah, voilà, on y est sensibilisé, on les apprend, on apprend à faire et effectivement, on va l'utiliser dans des situations données. Mais je garde toujours dans la tête cette idée que on reste entre personnes, entre guillemets, entre nous. On est tous des gens. On est tous des gens, et qu'un public qui est accompagné et les personnes qui les accompagnent, c'est des gens avant tout. Et on est juste voilà. Et après, effectivement, là, on a une ressource supplémentaire. On l'utilise et on la met à disposition du public, puisque vraiment d'abord, je travaille dans le service public, mais si je travaillais dans le privé, dans une asso, ce serait la même chose. C'est vraiment l'intérêt du public en premier lieu. C'est comment on fait, quoi. Comment on fait. Et le reste, il faut qu'on essaie de le faire passer après. Alors, on n'y arrive pas toujours, hein. Moi, le premier, des fois, on se prend dans des... Et puis, c'est important qu'on ait aussi des, entre guillemets, des prises de tête organisationnelles, institutionnelles. C'est important parce qu'il faut qu'on puisse débattre de comment on met les choses en place pour être le plus efficace possible. Mais pas se perdre dedans non plus, à chaque fois revenir sur la question de terrain, de se dire, voilà, on est allé dans la question un petit peu théorique de la construction, dans des questions politiques, dans des questions économiques, etc. Et de tout ça, maintenant, il faut qu'on l'utilise pour redescendre sur le terrain et qu'on se perde pas dedans, quoi. Donc, l'intérêt du public, voilà, c'est le cœur. Enfin, bref. Moi, c'est un peu ma vision. Alors, vision qui est complètement influencée par mon poste actuel, hein, évidemment. D'autres éducs pourraient dire des choses qui sont absolument nickel et qui diraient pas la même chose exactement. Hein, mais c'est vrai que moi, dans mon travail, c'est vraiment à ça que j'aspire et vers quoi je tends. Voilà.
Et ce rapport justement au terrain, Maëva, parce que depuis que tu es aux côtés de... Après, il y a peut-être eu d'autres formations, et du coup, ma question est bête, mais Là, depuis que tu es aux côtés de David, là, du coup, tu es confronté, je pense, à quand il reçoit dans son bureau la réalité de temps en temps. Oui. Que tu en penses quoi? Tu t'attendais à ça? C'est un peu déstabilisant? Parce que c'est quand même un boulot, je le dis à David, qui de temps en temps, qu'on doit sûrement emmener à la maison aussi. Parce que on peut pas, oui. quand l'heure est finie, je pense qu'il doit continuer de cogiter, à dire comment je pourrais régler ça, etc. etc. Donc, ça ne doit pas toujours être facile de dire là, je ferme la porte intérieurement.
Bah oui.
Et toi, la réalité que tu rencontres au contact de David, réalité, je parle pas de lui comme réalité, mais de tout ce qu'il accueille dans son bureau, ça ne te rebute pas par rapport à...
Bah, tu m'as demandé mes attentes. Moi, j'avais pas trop d'attentes en arrivant parce que bah, je connaissais pas du tout ce dispositif. Mais oui, c'est sûr que en fonction des situations, tu peux... Enfin... C'est totalement différent, en fait, en fonction des situations des différentes personnes. Mais c'est sûr que oui, comme tu dis, quand tu rentres, parfois, même moi, à mon titre de stagiaire, ça m'est arrivé, en étant en stage au DRE, de rentrer et de cogiter sur la situation rencontrée juste avant.
De telle ou telle personne,
oui.
C'est ça. Ouais. Non, parce que ça peut être facile. Parce que, bon, non, l'expression qu'ils utilisent des fois de misère sociale, elle est un peu voilà, galvaudée, mais mine de rien... Je pense que David doit y être confronté de temps en temps, hein, connaissant un petit peu des
choses. En fait, ce qui est super chouette, c'est qu'on rencontre des gens extrêmement différents. Mmh. Parce qu'il y a aussi une vision extérieure. Alors, je me dépêche parce que j'en rencontre qu'il ne nous reste plus tant de temps que ça. Il nous reste une dizaine de minutes. On rencontre des gens extrêmement différents et qu'on peut admirer. Il y a aussi ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce point de vue, effectivement, du travailleur social qui est d'une position haute, comme ça, qui regarde les gens, etc. Mais moi, il y a plein de parents que je rencontre. Je ne donne pas de nom, je ne rentre pas dans le détail. Et de jeunes d'ailleurs, pour lesquels je ressors avec de l'admiration. Et où effectivement, ils vont avoir une difficulté pour laquelle moi j'ai les ressources, mais d'un autre côté, je les vois aussi tenir ou essayer de tenir le cap dans des circonstances où je pense que moi je pourrais pas. Moi je me souviens, et des fois c'est simplement technique, hein, mais je me souviens d'une maman qui attendait des jumeaux. Dans un contexte socio-économique vraiment, vraiment pas bon du tout. Enfin, il n'y avait rien qui allait, quoi. Et je me souviens vraiment de la voir aller faire les courses au Lidl du quartier. Et des fois, je crois qu'elle allait même jusqu'au Auchan, à pied. Elle revenait avec ses sacs énormes, elle était enceinte, c'était en plein mois d'août, il faisait un cagnard d'enfer. Et moi, quand je regarde des gens comme ça, je me dis, bah, waouh. Parce que c'est vraiment cette notion de tenir malgré tout, et malgré des vents contraires monstrueux, quoi, en fait. Et je sais pas, c'est peut-être aussi une force d'âme, un courage que moi j'aurais pas, parce que j'ai peut-être eu une situation plus privilégiée, et donc j'ai peut-être pas la couenne assez dure, je sais pas comment dire ça, et puis peut-être que je l'aurais en plus, j'en sais rien en réalité, mais en tout cas, quand je regarde ces gens-là, j'ai une vraie admiration, quoi, parce que c'est juste absolument incroyable. Et dans cette émission, j'ai souvent utilisé le terme qui n'est pas de moi, qui est de Manuel Arsenet, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup, de combat ordinaire et des combattants ordinaires et des héros ordinaires, héroïnes ordinaires. Moi, c'est vraiment ça. Enfin, je trouve que quand je vois certaines mamans, on parlait de monoparentalité du quartier, alors on a aussi rencontré un papa qui était dans cette situation, mais effectivement, c'est quand même une majorité écrasante de femmes qui tiennent les choses. Je me dis, c'est des gens qui pourraient avoir des statues au même titre que t'es le héros de la guerre de je sais pas quoi. Pour moi, c'est assez incroyable. Et en fait, c'est cette perception-là aussi qui, moi, me permet de tenir. Mais c'était pas moi, en fait, qui était invité. Pourquoi je parle de tout ça?
Non, mais c'est intéressant.
Non, mais je continue.
Non, mais si, c'est intéressant.
Tu vois, c'est ça, c'est cette perception-là des gens qui me permet de tenir parce que sinon, ça aurait pas de sens, en fait, mon travail. Ça aurait strictement aucun sens. Parce que je vois bien que si des gens arrivent à faire ça, c'est qu'on va réussir à faire quelque chose. Enfin, voilà, de toute façon. Puis, bah, des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche à moitié. Des fois, ça marche un coup, puis ça marche pas le coup d'après. Mais après, il se passe ce qui se passe. Mais j'ai fondamentalement cette croyance-là, quoi. Cette admiration, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment l'admiration, y compris pour des jeunes, hein. On entendait effectivement les différentes jeunes filles, parce que là c'était des filles en l'occurrence qui sont venues l'année dernière. Yara qui est encore revenue la semaine dernière pour nous parler de leur projet et de tout ce qui contrarie leur projet et du combat qu'elles mènent pour essayer de mener à bien malgré tout leur projet, ou en tout cas de s'en approcher. Bah moi je suis très admiratif de ça.
Alors je vais te dire pourquoi en vérité. Ne t'en veux pas, c'est pas toi qui viens de parler, parce que c'est ce que j'apprécie chez toi. Tu sais à quel point ça me touche, ces histoires de combattants ordinaires, pour des raisons personnelles, surtout en plus dans la zone où tu sévis. Et du coup, en vérité, à travers ta voix, c'est ce que j'apprécie chez toi, c'est que finalement, tu soulignes que ton job, c'est déjà de les faire entendre eux. Parce que à travers ce que tu viens de dire, eh ben finalement, tu leur as donné plus la parole qu'on leur donne bien souvent.
Et ça, j'en sais rien, mais...
Si, si, parce qu'on évoque rarement tout ça. Et finalement, ces actions ordinaires dont tu parles, ben, c'est tous les jours. C'est les familles monoparentales ou pas. Et c'est tous les jours qu'il y a ces éléments-là, ces personnes, ces actions-là qui feraient valoriser plus souvent. Et je pense qu'ils le sentent quand ils viennent à votre rencontre aussi. Parce que parfois, ce qui peut rebuter dans les d'aller à l'encontre d'une administration, quand on est dans ces cas-là, dans les quartiers, etc., c'est souvent qu'il y a un décalage et qu'on n'ose pas parce qu'il y a un petit décalage institutionnel, un peu, tu disais tout à l'heure, pas arrogant, mais on sent que les personnes sont au-dessus de nous.
Ou alors on se positionne, ou alors le public se positionne
en infériorité
par réflexe, en fait. C'est ça aussi qu'il faut essayer de combattre pour dire non, vous valez autant que la personne qui est en face de vous, humainement parlant.
C'est vrai, mais et ça je le souligne, je dis aux auditeurs, tant pis, il me fera mon chèque après. Mais c'est vrai que quand on prépare les émissions, il est déjà arrivé que à ce moment-là, t'as une rajoute des zéros. Il y a un entretien qui est arrivé au moment où je pars, et je me rends compte qu'effectivement le lien que tu établis est un lien d'égalité. Tu vois, alors tu vas apporter quelque chose, bien sûr, mais la chose que tu apportes ne te place pas toi-même en situation de supériorité, mais en situation simplement du sachant qui vient donner, aider, apporter.
Une ressource, en fait.
Une ressource,
d'une
exactement.
Ressource, c'est pas de, voilà. Ouais. On a un problème de temps.
Ah, parce que j'allais redonner la parole à Maëva. Oui, mais tant mieux, ça prouve que c'est intéressant.
On a un problème de temps, parce qu'en plus, j'ai dit que j'allais présenter le réap de Maxéville, je vais le faire, parce que c'est quand même quelque chose que je trouve intéressant.
Et on fera plus tard la rentrée, tu sais, on avait des choses.
Hop, ouais, bah, on fera ça quand tard. Ce sera plus la rentrée.
Bah voilà, exactement. En tout cas, merci Maëva, super.
Ouais, merci. Hein, merci. Et effectivement, il y a un dispositif qui s'appelle, alors qui n'existe pas qu'à Maxéville, hein, mais qui s'appelle le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement aux parents, le réap. C'est intéressant parce que pour le coup, on a effectivement la maman d'Emma et Emma qui ont participé à une des actions du réap. En gros, c'est un dispositif qui s'adresse à des parents, enfin qui est composé de parents, de professionnels, de bénévoles, d'élus d'un territoire. Qui ont pour but en fait de soutenir un petit peu les familles à partir de ce qu'elles vont nous apporter. Sur Maxéville, c'est deux actions par mois à peu près. Alors il y a un peu plein de choses différentes, hein, des sorties musées, des sorties parcs d'attractions, du théâtre, des ateliers de cuisine, des massages bébés, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, des ateliers créatifs. C'est ouvert, alors sachant qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent sur le plateau de Haye, dont la cité éducative en premier lieu, ce dispositif-là n'existe que sur Maxéville Centre, où effectivement il n'y a pas forcément tous ces moyens-là. Voilà, c'est quelque chose que je trouve super intéressant parce qu'on travaille vraiment en partenariat. Moi, ça me fait travailler effectivement avec des gens de ma mairie, de mon service et tout. Et c'est vraiment bien. C'est l'occasion de bosser ensemble. Bon, c'est un financement CAF, entre autres. Et voilà, on accueille sur ces actions sorties des familles qui ont des enfants, parce que c'est le principe, hein. Ça s'adresse à des parents. C'est 0 à 18 ans. Et puis voilà. Et puis signaler aussi qu'il y a une distribution de sacs de naissance qui est organisée pour les gens qui vont avoir des enfants, ce qui permet de rencontrer en fait tout le monde et puis d'informer également sur les modes de garde, de faire un petit peu de prévention. Et alors voilà, parmi toutes les actions, parce que ça fait un gros paquet de choses qui sont mises en place, on a fait une sortie effectivement que moi j'ai adoré parce que c'était dans les Vosges, et les Vosges j'adore ça, à la fin du mois d'août, à laquelle vous étiez venu. Est-ce que c'est possible de nous dire un petit peu c'est quoi le contenu? Alors malheureusement il nous reste plus beaucoup de temps, on a été bavard et moi le premier, mais est-ce que c'est possible de nous dire un petit peu à quoi ressemble une sortie comme celle-là?
Mais on a fait une sortie le 30 août et en fait on a été dans les Vosges, on a été faire une... on a été visiter le musée du tissu.
Ouais, alors voilà. Musée du textile pour être
musée
précis.
Musée du textile.
Je sais ce que c'était bien, il faut que les gens ils entendent le nom, c'était vachement bien.
Et on a appris, la dame qui s'est occupée de nous, elle nous a montré comment travailler nos ancêtres. Là, sachant que moi... Elle nous a dit que dans le temps, les enfants à partir de 8 ans commençaient à travailler dans l'usine pour pas grand-chose.
Ouais.
Voilà. On a fait un petit atelier de tissage qui était bien.
C'était trop bien, ça, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très relaxant.
Et on a eu un diplôme de tissage.
Exactement.
Après, on a fait une petite randonnée. On a été manger et après le repas, on a refait une randonnée. Et bon, on a vu des petites pierres, où c'était marqué où était le côté allemand, où était le côté français dans la guerre. Mmh. Et après, on a été dans une visiter une chèvrerie. Alors,
une chèvrerie.
Une chèvrerie. On a vu comment la dame traitait, faisait la traite des chèvres. Ouais, oui. Après, on a fait une dégustation de fromage de chèvre. Mmh. On a même goûté du lait de chèvre.
De la traite, ouais, c'était trop bien.
Mais c'est vrai que la journée, les paysages étaient formidables et la journée était bien.
Et le fromage, Emma, c'était comment?
Il était bon.
Je sais que tu l'attendais avec impatience.
Ah bah, Emma attendait que ça toute la journée.
On était à Ventron, à la chèvrerie de Peu de Gouttes, je le dis, parce que c'est un endroit où on a été super bien accueillis. Oui. Et puis ce que j'apprécie, c'est que la dégustation, elle se fait avec la dame qui tient la chèvrerie. Elle vient vraiment discuter et tout. Mmh. Donc ça n'a pas le côté industriel, des fois, de certaines visites de ce style-là. Donc voilà, en résumé, un petit peu à quoi peut ressembler une des sorties. Alors comme je disais, il n'y a pas que des sorties, il y a aussi des ateliers, il y a aussi des sorties culturelles sur Nancy, enfin beaucoup de choses, voilà.
Et relisez le poème Mélancolia de Victor Hugo, j'aurais réussi à le caser. Dès 5 ans à l'époque de Victor Hugo, les enfants travaillent dans les filatures, où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, etc. Relisez Mélancolia, et le 30 août c'est magnifique, en plus c'était le jour de la Saint-Fantin, Fantine des Misérables. Merci beaucoup David, t'avais un mot à dire sur le jingle ou pas par rapport à la présentation?
Mais non, j'avais pas de mot à dire.
Non, t'avais terminé tout ça?
J'avais totalement fini.
Super, et la semaine prochaine, Vie Associative, merci à vous tous, merci. Merci Maëva et bravo. Merci David. On retrouve la réussite éducative donc dans 3 émissions. La semaine prochaine, Vie Associative. Merci à Jean-Luc et la technique. À bientôt, chers auditeurs. Merci David.